Daphné Lézesquelle, je vous propose d'écouter ou de réécouter une émission consacrée aux 30 ans d'Erasmus, Erasmus ou l'ébauche d'une citoyenneté européenne.
Spotkania europejskie.
Cruzemion tu d'Europa.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daphné Lézesquelle.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Il existe au moins une initiative européenne à propos de laquelle tout le monde s'accorde à vanter les bienfaits. C'est Erasmus, le fameux programme d'échange qui permet aux étudiants européens d'étudier dans un autre pays européen que le leur. Erasmus a 30 ans cette année et cela fait déjà quelque temps que le programme s'est ouvert aux apprentis et aux enseignants. Toutefois, l'objectif n'est que partiellement atteint. Seuls 10% des étudiants profitent de ce moment d'échange et d'ouverture et ce sont les jeunes issus des milieux les plus favorisés qui en sont les premiers bénéficiaires. Car si Erasmus accorde des bourses, elles sont toujours trop petites pour financer un séjour à l'étranger. Erasmus, bravo, mais peut mieux faire. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Laure Coudrello, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice du programme Erasmus Plus en France, car maintenant on dit Erasmus Plus, et vous nous direz pourquoi. Jérémy Dresse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur de bande dessinée, mais vous avez été aussi un étudiant Erasmus, c'était il y a une dizaine d'années. Vous avez voulu revoir vos amis d'antan et vous nous avez ramené un roman graphique, moi je dirais plutôt une sorte de bande dessinée numérique, en tout cas intitulé Carnet d'Europe, vous nous en parlerez bien évidemment. Nous serons tout à l'heure avec Sandro Gozzi, le ministre italien des Affaires européennes, juste après un détour par la rédaction de Courrier International. Et enfin, autour des micros de Carrefour de l'Europe, nous avons réuni trois jeunes Erasmusiens, Pauline, Charles et Nicolas. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Il a fallu que je me renseigne à ma fac sur les échanges universitaires européens. Ça s'appelle Erasmus. C'est un bordel innommable.
Vous demandez qui est Erasmus ? J'ai regardé sur internet parce que je savais pas non plus. Et très franchement, j'ai pas bien compris.
Pour aller vite, je crois que c'est une sorte de voyageur hollandais vers 1500.
Erasmus ?
Ouais.
T'es étudiant en quoi ?
Économie.
Waouh, sérieux ? Alors là, je peux te dire, tu vas t'éclater.
Ah ouais ?
Ah ouais. Tu vas mortel.
Je suis français, espagnol.
Je suis français, espagnol, anglais,
je
danois.
Pas un, mais
je suis pas un, mais plusieurs.
Je suis comme l'Europe.
Je suis comme l'Europe, je suis tout ça. Je suis un vrai bordel.
Laure Coudrello, impossible de commencer une émission sur Erasmus sans un extrait du film culte de Cédric Clapiche, L'Auberge espagnole. Alors Erasmus est une aventure européenne qui a commencé il y a 30 ans, qui a démarré très très timidement en 1987.
Oui, si on veut être très...
Soyons-le.
Très docte, on va dire. Les ministres de l'éducation se sont préoccupés des échanges européens très tôt. On donne comme date à peu près 1971. Mais il a fallu tout ce temps pour qu'on arrive à la conclusion du premier programme d'échange. Ce premier programme d'échange, signé le 15 juin, comme vous l'avez dit, 1987. Donc, on a 30 ans d'expérience en Europe sur les programmes d'éducation, de formation et de jeunesse. Ce qui est évidemment incroyable par rapport à tout ce qui se passe ailleurs dans le monde.
Alors aujourd'hui en Europe, combien d'Erasmusiens, je crois qu'on dit comme ça, hein, chaque année?
Alors c'est difficile de vous donner le chiffre parce que aujourd'hui, il faut bien le dire, depuis qu'on a ce nouveau programme Erasmus+, qui est la synthèse de tout ce qui a précédé et qui couvre la période 2010-2014-2020, on est arrivé à un volume tout à fait impressionnant de personnes qui sont parties. Depuis 87 jusqu'à aujourd'hui, on a compté maintenant au niveau européen, et ça a été fait de façon précise, 9 millions de personnes qui ont été bénéficiaires de ce programme. Et quand on dit de ce programme, ce ne sont pas seulement les étudiants, vous avez mis l'accent sur les étudiants dès le démarrage, mais aussi les apprentis, les jeunes de la formation professionnelle qui sont en lycée professionnel. Par exemple, ce sont aussi des adultes qui ont bénéficié de ce programme et depuis plus longtemps qu'il n'y paraît, et puis aussi tous les enseignants et les formateurs. Et puis il y a des programmes spécifiques sur la jeunesse, ils ont démarré dès 1989 en Europe et ils sont maintenant agrégés dans ce programme Erasmus+.
Alors quand
donc,
on est...
Si on donne des chiffres pour que vous ayez quand même une idée,
donnons-en au moins
on a 9 millions pour les 30 ans
et pour l'ensemble de l'Europe.
pour l'ensemble de l'Europe. On a 4,4 millions pour les étudiants, on a 1,4 millions pour les jeunes, on a 1,3 millions pour la formation professionnelle, on a 1,8 millions d'enseignants. Donc c'est considérable si l'on prend ces chiffres dans leur globalité. Ils ont touché d'abord 11 pays, ça c'était nous en 87, et maintenant nous sommes 33 à bord de ce programme. Et la nouveauté, depuis 2015, le programme est ouvert à la dimension internationale et nous coopérons avec 162 autres pays.
Alors c'est comme ça qu'on est passé de Erasmus à Erasmus+. Ça ne voulait pas dire que Erasmus+, l'afflux blanc ou offre plus de mobilité. Non, c'est ça, voilà.
C'est là, on a agrégé tout ce qui existait, tout ce qui avait été expérimenté positivement. On a enlevé tout ce qui n'allait pas et on a ouvert donc ce programme à tous les publics et avec un volume financier beaucoup plus important. Il faut le dire, en 2014, tout le monde s'est battu au niveau européen. Les trois institutions ensemble, c'est rare.
Le Conseil, la Commission et le Parlement.
Absolument, mais ensemble, pour obtenir 40% supplémentaires de budget. Et donc nous sommes arrivés à passer cette barre des 1 milliard pour la période 2014-2020, puisque aujourd'hui nous bénéficions d'environ, pour la France, pour notre agence, sur la totalité du parcours, ce sera 1,4 milliard. Et pour l'ensemble de l'Europe, c'est 16,8 milliards. C'est
sur le programme 2014-2020.
Absolument.
Alors, quand on est étudiant, comment on s'y prend quand on décide de suivre un programme Erasmus? D'abord, à quel niveau on peut intégrer un programme Erasmus, licence, master? Ça prend combien de temps? C'est très flexible ou pas? Et souvent, dans quel pays on va?
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les établissements d'enseignement supérieur ou les établissements de formation professionnelle qui sont à la manœuvre. Donc c'est beaucoup lié aux coopérations que chacun de ces établissements a préétablies.
C'est-à-dire s'il y a une université en France qui a des contacts avec une université en Italie, en Espagne, ça sera plus facilement que si cette université n'a pas de contact avec une université suédoise, par exemple.
Et ce qui est très important de dire, c'est que c'est un programme où on parle de mobilité encadrée, c'est-à-dire que la mobilité se fait dans le cadre de l'établissement qui l'a construit et qui la propose à ses étudiants. Donc évidemment, il y a des établissements qui ont on va dire une offre de destination très importante. Il y en a d'autres, il y en a un peu moins. Mais il y a aussi la qualité de la relation entre les établissements qui fait aussi la qualité de la mobilité pour l'étudiant. Si vous savez que vous êtes bien accueilli dans une structure qui connaît bien la vôtre, évidemment, tout le travail pour partir en mobilité, parce qu'il y a un vrai travail à construire un projet de mobilité en amont, mais il sera facilité.
Alors, Pauline, Charles et Nicolas, je ne dis pas que vous êtes revenus la semaine dernière, n'exagérons pas, mais presque. Comment ça s'est passé pour vous? D'abord, Charles, qu'est-ce qui vous a motivé pour un jour, dans votre cursus universitaire, de dire je vais suivre un programme Erasmus? Comment ça s'est passé et où êtes-vous allé?
Alors, les motivations étaient multiples. C'est en L3, donc en troisième année de licence, que j'ai décidé de partir. Je voulais partir pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'était de pouvoir me spécialiser de manière anticipée par rapport à ce qu'offrait ma faculté à Paris en droit européen. Donc ça a été un des choix principaux. Je suis parti à Utrecht, donc c'est aux Pays-Bas. C'est à 50, pour donner une idée globale, c'est à 50 km d'Amsterdam. Et donc pour me spécialiser en droit européen en avance par rapport à mon université à Paris. Et ensuite pour les langues, parce que c'est vrai que c'est indubitable que l'Erasmus favorise quand même l'apprentissage de l'anglais.
Ça veut dire que vous parlez néerlandais ou l'anglais?
L'anglais, l'anglais.
Ça s'est bien passé globalement?
Parfait.
Nicolas, vous n'êtes pas un étudiant, vous êtes un apprenti Erasmus. Votre domaine d'activité, quel est-il?
Alors moi, je suis jardinier paysagiste et du coup, j'ai choisi de partir à Cardiff, au Pays de Galles, pour pouvoir travailler dans un jardin historique. Donc ça a été ma première motivation, découvrir le monde du jardin britannique et ensuite découvrir une culture et surtout apprendre l'anglais.
Vous en avez bien un peu marre des jardins à la française, vous avez voulu connaître, plus près les jardins à l'anglaise.
Tout à fait.
Voilà. Ça a été une expérience marquante, décisive, importante. Ça a été compliqué déjà à mettre en place?
Ça n'a pas été compliqué à mettre en place parce que je suis dans une structure chez les Compagnons du Devoir qui nous aide à partir à l'étranger et qui nous permet d'avoir des cours d'anglais par exemple en arrivant sur place. Donc c'était très enrichissant, au contraire.
Oui, ce qui est important, c'est ce qu'elle expliquait déjà à Laure Cotrello, c'est la structure, tout le travail en amont, une structure qui vous accueille, qui a l'habitude d'accueillir, etc. C'est le plus important.
Ah bien sûr, parce qu'un voyage bien préparé, c'est un voyage qui se passera bien dans la durée.
Et alors, dans votre domaine, le paysagisme, vous aviez une multitude de choix ou c'était relativement limité ?
J'avais le choix. Après, c'est moi qui ai fait le choix de partir dans un domaine très spécifique qui est le jardin historique pour découvrir ce domaine-là, là-bas.
Le jardin historique, c'est-à-dire les jardins qui entourent les châteaux, les domaines.
Tout à fait, oui, un domaine de château, oui.
Pauline Simons, alors vous êtes une aventurière, parce que d'abord vous êtes belge, et vous avez choisi de venir en France suivre un programme Erasmus. Ouais. Tout ça, comment ça s'est passé?
Alors je suis venue à Paris, puisque je suis très aventurière, effectivement, donc j'ai quitté la capitale belge pour la capitale française. C'était d'abord un choix de plus large dans... Pour venir vivre en France après. Donc je voulais absolument déjà être plongée dans la vie parisienne. Et puis, il y avait aussi le besoin d'indépendance. C'était très important pour moi de vivre toute seule, de voir autre chose. Et puis finalement, Paris, c'est un peu différent de Bruxelles quand même.
C'est un peu plus grand ?
C'est plus grand, c'est plus grand.
Bonne expérience ?
Bonne expérience. Alors la préparation était un peu compliquée. Et même si Sciences Po reçoit beaucoup d'étudiants, finalement l'accueil est énorme. Et pour une petite Belge, j'étais un peu perdue.
Alors, c'est vrai qu'on a l'impression, Romain Duris, dans son film, il y a tout un épisode sur la difficulté de remplir les papiers, les bons papiers au bon moment et dans les bonnes cases. Ça a été votre cas ? Ça a été difficile ?
Oui, alors le plus difficile pour moi, ça a été de trouver des cours qui correspondaient à Paris pour mon programme de Bruxelles. Alors là, il y avait tellement de choix. Je me suis un peu arraché les cheveux pour construire mon programme de cours à Paris, mais finalement ça a été un grand bonheur. Les cours à Paris, c'était vraiment la plus belle chose que j'ai découverte en France.
Alors tous les trois, un moment, une anecdote, une émotion, voilà, si vous deviez d'un mot, d'une idée, d'une seule image résumer votre année ou vos 6 mois Erasmus, Charles, à Utrecht.
J'allais dire, c'est la première semaine, toutes les nouvelles émotions, à savoir toutes les nouvelles personnes. L'accueil qui à Utrecht a été incroyable, que ce soit au niveau administratif, un encadrement, vraiment la semaine de présentation de la ville, qui ne prend pas une semaine, entre guillemets, à être visitée, mais c'est toujours important pour se sentir chez soi. Et voilà, les rencontres avec les professeurs aussi, parce qu'il y avait un lien très privilégié. Donc une rencontre avec les professeurs, une rencontre avec les autres étudiants et avec la ville.
Nicolas, à Cardiff.
Bah, c'est, on va dire, la rencontre avec mes collègues de travail qui m'ont permis, comme ils sont gallois, de découvrir vraiment la culture galloise de l'intérieur.
Que vous ne soupçonniez pas, non ?
Absolument pas.
Et Pauline
Moi aussi, c'est mes premiers jours à Sciences Po et c'était plutôt l'impression d'être toute petite et je me suis dit comment je vais faire pour rencontrer des gens et trouver ma place dans cette grande maison qu'est Sciences Po.
Alors Pauline, Nicolas et Charles, vous êtes revenus d'Erasmus. Certains envisagent de partir et justement vous, Pauline Simons, vous êtes rendue au lycée Jules Ferry de Paris, pour ceux qui connaissent, c'est près de la place de Clichy, et au lycée de Terminal, vous avez demandé ce que leur évoquait Erasmus.
Voyage, découverte, échange.
Une super opportunité pour découvrir de nouvelles personnes. Erasmus, ça m'évoque l'auberge espagnole.
Moi, je pense plutôt à l'indépendance.
À l'échange, au voyage, à nouvelles langues qu'on aura l'occasion de parler.
Lorsqu'on me dit Erasmus, je pense à vacances et en même temps à études. Donc c'est bien, c'est un bon duo.
Et toi, t'as envie de partir ?
Ouais, j'ai envie de partir dans des pays plutôt scandinaves, comme le Danemark ou la Suède. Parce que c'est une culture très différente de la nôtre et qui m'intéresse beaucoup. Et ça ne me dérange pas qu'il fasse froid.
Pour que l'allemand me serve à quelque chose, pourquoi pas en Allemagne ?
Et je partirai dans un pays où il fait chaud et où je peux aller à la plage.
L'Espagne.
Pays scandinave aussi, dans le nord, Danemark particulièrement.
Alors, Laure Cotrello, tout tard, on part en Espagne, on finit toujours par y revenir. C'est le pays le plus demandé, le plus... qui attire le plus, l'Espagne ?
On va dire, il y a un trio, hein. On va dire Espagne, France, Allemagne, c'est le trio, et l'ordre s'inverse selon les années. On vient de passer, enfin les dernières annonces...
Qu'est-ce qui est tendance ?
C'est plutôt la France pour les sorties, et puis l'Espagne pour ceux qui... Oui, c'est l'Espagne qui domine encore. Alors, il y a plusieurs éléments explicatifs. Il y a bien sûr le sud de l'Europe qui est attractif, il y a aussi les possibilités de se loger, qui comptent beaucoup pour les étudiants et les apprentis qui partent. Et puis les niveaux
de vie. Parce qu'il y a des pays, évidemment, il y a des pays qui sont plus ou moins chers. L'Espagne est moins chère que la Suède.
Alors les bourses sont adaptées aussi.
Alors les bourses, justement, ces fameuses bourses, elles se montent à combien ?
On va dire, on est autour de 260 euros par mois. Alors ça, c'est la bourse seule Erasmus.
On ne vit pas avec 260 plus, euros
non,
par mois. Hein,
mais il y a la possibilité...
Même quand on est jeune et étudiant.
Mais on est tout à fait d'accord. Mais évidemment, ces bourses-là sont généralement complétées. Elles sont complétées au niveau national. Il peut y avoir des bourses sur critères sociaux. Il peut y avoir des bourses de mobilité qui sont d'ordre national. Les régions abondent beaucoup, encore aujourd'hui, sur les bourses de mobilité. Et ces bourses sont cumulables. Mais bien évidemment, chaque étudiant, chaque apprenti qui part, doit réfléchir au budget qu'il pourra utiliser pendant la période de sa mobilité. Certains partent sur des longues périodes. C'est peut-être une exception. Vous avez un apprenti qui est parti, je crois, un an.
Oui.
Voilà, mais la moyenne en apprentissage, c'est plutôt
un peu plus court.
Beaucoup plus court,
beaucoup plus court.
De l'ordre du mois. Pour les étudiants, c'est pareil, vous avez là en face de vous des étudiants qui sont partis sur de longues durées, mais la moyenne c'est plutôt 6 mois.
Alors,
donc on construit son budget et on prépare son budget et on essaye de rassembler tout l'argent qu'on peut autour de la bourse Erasmus, on va dire.
Alors justement, Nicolas, comment vous y êtes pris pour rassembler un peu cet argent? Parce que quand on est apprenti en stage, on n'est pas payé par définition. Donc vous aviez une bourse, elle était suffisante, vous avez dû travailler avant pour financer ce projet. Comment vous y êtes pris?
Alors j'ai travaillé un petit peu avant pour financer un parti mon projet. Après, on a une bourse, du coup, à l'arrivée dans le pays pour pouvoir pallier aux premiers frais, on va dire. Et ensuite, j'avais dans mon emploi un salaire qui me permettait de vivre un petit peu chaque mois.
Alors ça, c'est un peu exceptionnel d'avoir un salaire.
Tout à fait.
Vous
oui.
êtes un cas un peu original.
Voilà.
Charles, comment vous êtes pris les Pays-Bas? C'est pas un pays spécialement bon marché.
Bah, pas spécialement bon marché, mais pas cher non plus en soi. C'est vrai qu'un des problèmes qui peut être abordé, je pense, c'est la périodicité du versement de la bourse, parce qu'effectivement, en moyenne, 250 euros, c'est bien, mais c'est mieux quand elle est versée tous les mois, ça serait optimal.
Et plutôt dès le premier mois, c'est ça?
Tout à fait, or c'est pas forcément exactement le cas. Mais sinon, voilà, principalement de la bourse, de l'argent des parents, et beaucoup d'amis sur place qui travaillaient pour se payer le projet.
Alors on dit parfois que les amis qu'on a sur place, c'est parfois quand on est français, des français, et accessoirement quelques néerlandais. Comment ça s'est passé pour vous?
Ah non, absolument pas en fait, il y a vraiment eu un mix déjà au niveau du logement. J'étais avec des colocataires qui étaient néerlandais, et puis sur les campus universitaires, énormément de mix. Certains groupes parfois décident par communauté de rester ensemble, par nationalité, mais c'était plutôt l'exception que la règle.
Laure Coudrelot, est-ce qu'il y a des pays qui renaclent à envoyer des étudiants, ou des pays qui sont un peu à la traîne? Bon, quand le programme Erasmus a été lancé, je calcule vite fait, il devait y avoir une quinzaine de pays au sein de l'Union, 11 à l'époque au sein de l'Union Européenne, il y en a 28 maintenant. Est-ce que les nouveaux entrants, les Polonais, les Roumains, les Hongrois, sont des pays d'accueil, sont des pays de départ pour les étudiants?
Oui, je pense que c'est très partagé. L'idée de cette mobilité, c'est des mobilités où la personne s'enrichit, gagne en autonomie, mais revient ensuite souvent. Je pense que c'est très partagé et tout le monde a envie que ses étudiants, ses apprentis partent. Tout le monde sait la richesse de l'interculturel.
Donc globalement, tout le monde a adhéré à ce projet, ce programme européen. Il n'y a pas de pays qui renaclent ni à accueillir, ni à envoyer des étudiants.
Non. Ce que je dirais, c'est qu'il y a des pays qui ont travaillé là-dessus et qui... accueillent mieux que les autres.
Par exemple,
les pays baltes, par exemple, accueillent très bien pour justement dynamiser leurs universités.
C'est aussi pour ces pays l'occasion d'exister davantage sur la scène européenne.
De faire découvrir leur pays, leur culture. C'est très important. Les pays nordiques accueillent très bien. Je crois que les Pays-Bas, vous l'avez bien dit, accueillent formidablement. Donc il y a une compétition entre les établissements sur ce sujet-là, la qualité de l'accueil.
Et Pauline, donc vous êtes de Belgique en France, l'accueil en France a été comment?
Alors l'accueil à Sciences Po était très tourné vers plutôt les étudiants qui venaient de loin, des États-Unis ou d'Asie. Et moi j'ai pas trop trouvé ma place dans le système d'accueil Erasmus. Mais après en cours j'ai rencontré des gens de toute l'Europe et plus loin à Sciences Po. Et là c'était des très belles rencontres.
Vous êtes en train de dire qu'en tant que Belge vous montre qui est d'exotisme pour la rue Saint-Guillaume à Paris.
Je pense peut-être un peu, mais Après, mes amis étaient français aussi.
Donc ça s'est plutôt bien passé.
Oui, très bien.
Et vous avez progressé en français?
Alors, il paraît que j'ai gommé un peu mon accent.
On va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des dernières nouvelles de la planète avant de retrouver nos invités. À tout de suite. Les escales, je vous propose d'écouter ou de réécouter une émission consacrée aux 30 ans d'Erasmus, Erasmus ou l'ébauche d'une citoyenneté européenne.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tu d'Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desescales.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Si vous nous rejoignez, nous parlons d'Erasmus, le fameux programme d'échange qui permet aux étudiants européens d'étudier dans un autre pays européen que le leur. Erasmus a 30 ans cette année et cela fait déjà quelques temps que le programme s'est ouvert aux apprentis et aux enseignants. Erasmus est généralement qualifié comme la plus grande réussite de l'Union européenne. Toutefois, l'objectif n'est que partiellement atteint. Seuls 10% des étudiants profitent de ce moment d'échange et d'ouverture et ce sont les jeunes issus des milieux les plus favorisés qui en sont les premiers bénéficiaires, car si Erasmus accorde des bourses, elles sont toujours trop petites pour financer un séjour à l'étranger. On a vu ça dans la première partie. Je vous représente rapidement les invités qui nous ont rejoints autour des micros de Carrefour de l'Europe. Laura Goudrello, directrice du programme Erasmus Plus en France. Jérémy Dresse, auteur de bande dessinée et ex-étudiant Erasmus, c'était il y a une dizaine d'années. Et puis Pauline Simon, Charles Manouri, Nicolas Rennes, qui sont trois jeunes Erasmusiens. Alors avant de reprendre notre débat, nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Carole Lyon.
Bonjour Daniel.
Vous avez lu pour nous le quotidien de Barcelone El Periódico. Barcelone étant, comme on le sait, la ville emblématique d'Erasmus. Elle est aussi la ville par excellence des bébés Erasmus.
Voilà, et donc en fait cet article que nous reprenons dans Courrier International nous parle de l'un des principaux clichés que traîne Erasmus et qui se résume à un surnom Erasmus Orgasmus. En gros, l'idée que ce programme d'échange consisterait en fait avant tout à faire la fête pendant un ou deux semestres, à ne pas beaucoup étudier et à enchaîner les aventures avec des ressortissants de toute l'Union européenne, bien sûr.
C'est un peu exagéré, évidemment.
Oui, bien sûr. Alors, ce stéréotype a sans doute un fondement, mais comme l'écrit El Periódico, il ne faudrait pas perdre de vue que beaucoup de ces couples Erasmus ont duré, qu'ils se sont installés et qu'ils ont donné naissance à la toute première génération véritablement européenne. Des enfants Erasmus qui, d'après une étude de la Commission, seraient déjà 1 million. Le journal a rencontré quelques-uns de ces couples. Souvent, ils sont issus de 2 pays différents et ils élèvent leurs enfants dans un 3e. Ils racontent de belles histoires de rencontres, d'aller-retour à travers l'Europe, de mélange de langues et de cultures. Mais pour autant, il serait un peu simple de s'attendre à ce que leurs enfants se définissent simplement comme européens. Évidemment, leur identité est un peu plus complexe que cela. Mais il n'empêche que, vu le mélange culturel à l'origine de leur naissance, ces petits Erasmus sont bien partis pour être ouverts d'esprit et tolérants. Et ça, nous dit le journal, dans le contexte actuel, c'est déjà une belle victoire pour le programme Erasmus.
Merci Carole, Courrier International, l'hebdo et courrierinternational.com, le site. Alors Pauline, Charles, Nicolas, Erasmus, Orgasmus, oui ou non? Un grand moment de
pas
silence.
Pas trop. Beaucoup de travail.
Beaucoup de travail, d'accord. Bon, très bien. Alors, Jérémy, est-ce que Erasmus, ça change un étudiant? Alors, vous étiez, vous, en Erasmus, à Rotterdam, aux Pays-Bas, tiens, justement, la ville d'Erasme. C'était il y a 10 ans. Est-ce que Erasmus a changé votre vie et votre regard sur le monde?
Ben, je dirais pas que ça a changé ma vie. Je pense que ça a surtout enrichi mon parcours professionnel. Et du coup, c'est vrai que pour moi, ça a été un peu différent de cet exemple qu'on se sort souvent de l'auberge espagnole, où voilà, sortir, faire la fête, l'orgasmus, etc. Moi, c'est vrai que je me suis fait beaucoup d'amis, mais c'est vrai que surtout, j'ai enrichi voilà, mes compétences après cette expérience.
Au départ, vous étiez étudiant en Beaux-Arts ou...
Alors, j'étais aux Arts Décoratifs de Strasbourg, l'école des Arts Décoratifs de Strasbourg, pour 3 ans, mes 3 dernières années d'études. Et pour la 4e année, j'ai fait cet échange, justement, à Rotterdam, pour acquérir, pour entrer, en fait, dans une section qui n'existait pas trop en France, juste... tourné autour des nouvelles technologies, de l'art numérique et tout ça. Donc voilà, il faut se placer il y a 10 ans, voilà, dans les écoles d'art, voilà, il y en avait pas beaucoup.
On avait plutôt le pinceau et le crayon et peu l'ordinateur, c'est ça?
On s'y mettait, hein, je veux dire, on s'y mettait quand même. Mais c'est vrai que par exemple Rotterdam, pour la Hollande, c'est vraiment une ville qui bouge énormément d'un point de vue artistique. Et j'ai pu le voir et j'ai pu vraiment m'en inspirer, absorber énormément de choses. Donc ça a été vraiment bénéfique. À la fois l'école, à la fois la ville, je dirais, mais aussi en fait les rencontres avec justement d'autres étudiants qui avaient d'autres approches. D'autres compétences, et en fait le fait de les voir, bah ça m'a aussi enrichi.
Alors vous avez eu envie de retrouver vos amis d'Erasmus 10 ans plus tard, ça s'est passé l'an dernier, c'est ça? Vous avez refait le chemin, donc vous êtes reparti dans quel pays?
Tout est parti en fait d'une idée que j'ai eue en 2012, le jour où j'ai entendu, peut-être c'était sur RFI, que le programme Erasmus était menacé. Et du coup, je me suis dit, ah bon, mince, c'est triste qu'un tel programme puisse disparaître, parce que j'en avais vraiment bénéficié. Je trouvais ça vraiment dommage que les plus jeunes, les générations qui suivraient, ne pouvaient pas bénéficier de ça.
C'est vrai qu'à un moment, juste une parenthèse, il a été très menacé pendant un moment, et je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui qu'il est sauvé. Je m'adresse juste à un regard auprès de Laure Coudrello qui confirme.
Et c'était à partir de là que je me suis dit, ça pourrait être une très bonne idée justement de retourner voir justement tous ses amis, parce que finalement, la trace qu'il en reste de cet Erasmus est peu perceptible. Finalement, on part, on fait son expérience, on revient, et puis c'est quelque chose de très personnel. Et en fait, le fait d'aller les revoir et de raviver tous ces souvenirs et de reparler de tout ça avec eux, de voir qu'ils sont toujours là, en fait, permettait en fait de donner une trace à cette expérience.
Et leur première idée, c'est que 10 ans plus tard, ils avaient pris 10 ans, au lieu de 10 ans, ils avaient changé.
Mais c'est un peu un miroir en fait, parce qu'on se rend compte que soi-même on a changé, que on était jeunes, on fumait des cigarettes, on buvait des bières, et puis là on parle enfant, on parle de stabilité, est-ce qu'on a réussi à trouver un boulot, est-ce qu'on a pu s'épanouir sur le plan artistique, parce que c'est aussi ça quand on fait des écoles d'art. Donc c'est vrai que les enjeux sont plus les mêmes 10 ans après.
Est-ce qu'ils sont restés eux-mêmes, et en quoi Erasmus les a changés ou pas selon vous?
Je pense que je pense qu'Erasmus les a changés, mais a priori quand on fait Erasmus, c'est qu'on a une certaine ouverture d'esprit, je dirais. A priori. Et du coup, ils avaient déjà cette ouverture. Je pense que ça l'amplifie, cette expérience. Et en fait, en les retrouvant, j'ai trouvé qu'ils étaient toujours aussi ouverts. Et ceci dit, j'avais un peu peur, justement, parce que ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Ça faisait 10 ans, en fait. Et en fait, pendant 10 ans, on entend que, en Hongrie, il y a Viktor Orban, que la Grèce, ça se casse complètement la gueule avec la crise économique. Enfin, toutes ces choses-là. Et par exemple, pour les Hongrois, je me disais, mais est-ce qu'ils sont pas tous devenus complètement fachos, par exemple?
Et la réponse?
Non, justement, ils étaient toujours aussi ouverts, et c'est chouette et super de les avoir retrouvés. Et justement, c'était un peu difficile, parce que moi j'avais quand même cette angoisse, et je voulais pas leur dire bon, ça va, vous êtes plutôt Orban ou plutôt à gauche. Enfin voilà, j'allais pas les attaquer direct là-dessus, mais donc il a fallu revoir un peu. Et ça n'a pas été tout de suite très évident de savoir où est-ce qu'ils se situaient, en fait.
Et alors, leur rapport à l'Europe, est-ce que vous avez l'impression que ils se sont sentis beaucoup plus européens? Est-ce que vous êtes senti très européen avec eux, alors que il y avait un Hongrois, un Grec, et si je me souviens
bien. En fait, il y avait 3 Hongrois, il y avait 2 Grecs, et après il y avait 2 Espagnols. Voilà. Et à chaque fois, ce qui était assez intéressant, c'est que chacun vivait plus ou moins, enfin, ou avait vécu dans les capitales justement en question.
Alors ces rencontres, ces retrouvailles, vous avez écrit et dessiné leur histoire. Alors vous dites sous forme d'un roman graphique, moi je dirais plutôt une bande dessinée numérique, on est d'accord, c'est à peu près la même chose?
Oui, voilà, enfin c'est juste qu'aujourd'hui on fait un peu cette différence là parce que roman graphique, ça s'est un peu émancipé du format très classique et conventionnel de la bande dessinée style Tintin, on va dire, ou Astérix.
Donc en tout cas, c'est disponible sur le net, et bien évidemment il y a un lien sur la page RFI Carrefour de l'Europe. Ça s'appelle Carnet d'Europe, c'est évidemment totalement libre pour le consulter, pour tourner les pages, bien évidemment.
Oui, voilà. Et puis c'était en fait en partenariat, donc du coup avec l'agence Erasmus+. En fait.
Alors Pauline, Nicolas, Charles, qu'est-ce qu'a changé Erasmus dans votre jeune expérience et dans votre regard sur la vie, le monde et l'Europe? Tout un programme, Charles.
Déjà une certaine ouverture, des réflexes que je pense je n'aurais pas eu si je n'étais pas parti. Par exemple, avec les événements qui sont passés en Pologne, le premier réflexe d'appeler ou de contacter des anciens camarades d'Erasmus pour qu'ils nous expliquent la situation, pour avoir un point de vue un petit peu national et avoir des informations à la source sur ce qui se passe et sur l'actualité et pourquoi, comment, et avoir adopté un autre point de vue. Donc je pense que c'est vraiment un des éléments principaux que ça m'a apporté.
C'est-à-dire que, si je comprends bien, vous vous êtes senti davantage européen après votre passage à Utrecht, aux Pays-Bas.
Ah, tout à fait. C'est vrai que les sources d'information sont toujours aussi diverses, mais la réception de l'information est modifiée par le voyage en Erasmus, étant donné qu'on prête plus d'attention et on va consacrer plus de temps et plus d'énergie à aller puiser et creuser ces informations.
Nicolas Rennes,
Moi, ça va être la curiosité sur les autres, le fait d'échanger, de pouvoir échanger dans une autre langue et de se faire comprendre et de comprendre. Et les petites subtilités de cette langue, ça permet de se sentir intégré dans une autre culture. Et ça m'a donné la possibilité d'être beaucoup plus curieux, de m'intéresser à beaucoup plus de choses et donc de me sentir aussi beaucoup plus impliqué dans ce qui se passe dans l'Europe en général et dans les informations qu'on peut percevoir.
Vous êtes parti français, vous êtes revenu européen.
En quelque sorte.
Pauline Simon.
Moi, je dirais que c'est plutôt les points de vue différents que j'ai pu entendre, et notamment sur l'Union européenne, qui a donné beaucoup de débats entre nous, que ce soit les Français qui n'ont pas spécialement la même vision que les Belges. En plus, venant de Bruxelles, forcément, on est très plongé dans le milieu européen et on a une idée très claire de ce que c'est la vie européenne. Et du coup, autant la vie de d'autres Européens plus lointains, comme des Grecs ou des Espagnols qui vivent une Europe tout à fait différente, et puis aussi des Mexicains, des Chinois, qui eux, alors l'Europe, c'est un truc... tellement bizarre et tellement lointain que c'était assez intéressant d'échanger là-dessus.
Il est en Italie quelqu'un pour qui Erasmus a été déterminant puisqu'il est devenu le ministre des Affaires européennes de son pays, c'est Sandro Gozi. Bonjour Sandro Gozi, votre Erasmus remonte à une vingtaine d'années, alors racontez-nous en quelques mots un grand moment de votre vie.
Pour moi, c'est fut une expérience extraordinaire que j'ai fait à Paris, à Endroit, Paris 1, à la Sorbonne. Et c'était une expérience extraordinaire parce que ça m'a permis de toucher du doigt ce que ça signifie être citoyen européen. Être un citoyen qui avait les mêmes droits que les Français, d'habiter à Paris, de participer aux cours, suivre les cours avec d'autres étudiants français à l'université, d'avoir pleinement la possibilité de voir mes opportunités de formation universitaire, mais aussi, et je dirais surtout, des citoyennetés multipliées grâce au programme Erasmus. Et je crois que ça a été une expérience qui m'a énormément aidé dans la poursuite de mes études avant et de mes choix professionnels après.
Alors quand on est étudiant, on rencontre beaucoup de jeunes d'étudiants. Est-ce que vous avez gardé des contacts avec vos camarades Erasmus de l'époque? C'était donc il y a une vingtaine d'années.
Bien sûr, je garde encore des contacts avec des étudiants. À l'époque, des étudiants français, espagnols, et surtout, on garde une approche qui est différente. Parce que en ayant vécu en première personne la dimension européenne, on a pleinement conscience de la nécessité de la dimension européenne et de la nécessité de l'Europe. Et on regarde même dans une période de crise comme maintenant, l'Union européenne encore comme une partie de la solution et pas une partie du problème, parce que nous avons vécu l'histoire des succès la plus grande de l'Europe, qui est la liberté, la mobilité et les opportunités que l'Europe peut offrir aux jeunes et qui doit offrir de plus en plus.
Alors Sandro Gozi, Erasmus fête ses 30 ans, c'est évidemment un programme qui marche bien, mais si on regarde à l'échelle du nombre d'étudiants européens, seule une petite partie d'entre eux ont bénéficié de ce programme. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'aujourd'hui plus de jeunes participent à Erasmus, plus de jeunes voyagent en Europe et rencontrent d'autres Européens afin de forger évidemment cette esquisse d'ébauche de citoyenneté européenne?
Il faudrait multiplier par 10 les budgets de l'Union européenne dédiés à l'Erasmus. C'est une proposition que j'ai déjà faite à Paris, je la refais avec vous. cette année, on doit commencer à préparer la négociation pour les budgets de l'Union européenne dans la période 2020-2026. Et je crois que si on était vraiment sérieux avec la volonté de relancer l'Europe, si on était vraiment sérieux avec la volonté d'établir une nouvelle confiance, un nouveau lien de confiance entre notamment la jeunesse et l'Europe, il faudrait dire que 1,3% du budget européen pour la plus grande histoire de succès de l'Europe, à savoir Erasmus, c'est trop peu. Et il faut multiplier par 10. Il faut que les prochains budgets dédient 10% à la mobilité des jeunes, mobilité des étudiants universitaires, mais aussi des lycéens, mais aussi des apprentis, mais aussi du service civique, des volontaires, etc. C'est ça qu'il faut faire, et ça, si on faisait ça, et dans ces derniers 30 ans, Erasmus a bénéficié à 3,5 millions d'étudiants. Et en multipliant par 10, on arriverait à 30 millions d'étudiants. On ferait vraiment la différence, tout en sachant que quand on participe au programme Erasmus, ce n'est pas seulement l'étudiante ou l'étudiant qui participe au programme à les faire, mais c'est sa famille, c'est ses amis. C'est un peu l'esprit de la bonne Europe qui est pour se répandre sur une petite communauté, et c'est comme ça qu'on peut poser les jalons pour une véritable relance d'une Europe des citoyens.
Merci Sandro Gozzi. Je rappelle que vous êtes le ministre italien des Affaires européennes et que vous avez récemment publié Génération Erasmus chez Plon. Alors, Laure Cudrello, est-ce qu'Erasmus contribue à forger un esprit européen? Est-ce qu'il y a des statistiques, des études, des doctorats qui ont été faits là-dessus, des thèses, ce que je sais
Non, je crois que c'est évidemment l'expérience de chacun qui fait qu'on voit que se consolide une citoyenneté européenne. Alors évidemment, dans les projets qui sont possibles, hein, ces projets de partenariat, on développe beaucoup cette idée de construire et de consolider la citoyenneté européenne. Mais vous l'avez vu, hein, l'Europe, elle se fait avec des gens, des familles, des établissements, et c'est par cet échange, ce partage, cette interculturalité qui a bien été décrite par chacun des personnes qui étaient autour de la table, qu'on voit bien que c'est là que se fait la citoyenneté européenne. C'est là qu'elle se constitue, avec des gens qui sont ouverts et qui n'ont pas peur de sortir de chez eux et qui sont convaincus que c'est dans l'interculturalité qu'on devient une personne forte.
Alors, Jérémy Dress, tous vos amis, donc des Hongrois, des Grecs et des Espagnols, c'est-à-dire entre autres des Catalans, vous avez été surpris de constater que certains d'entre eux, 10 ans plus tard, étaient devenus eurosceptiques, ce qui peut paraître relativement paradoxal.
Oui, c'est vrai que j'étais assez surpris, oui, un Catalan justement qui était, déjà j'étais surpris de voir que mes amis étaient un peu indépendantistes catalans, ça je le savais pas du tout, et puis en effet l'un d'eux était complètement eurosceptique, il voyait pas forcément, enfin voilà, avec tout le discours qui va derrière sur que c'est la dictature de Madame Merkel, etc., enfin bon, ce qu'on entend toujours. Donc oui, mais en même temps je trouve ça aussi intéressant, en fait, que chacun ait aussi forgé son état d'esprit, et c'est en fait ce que j'avais envie de voir, parce que en fait je voulais comparer en fait ces deux périodes qui étaient il y a 10 ans, notre insouciance d'étudiant avec une Europe qui allait bien et qui se construisait, avec justement la Hongrie qui allait peut-être adhérer à l'euro et ce genre de choses, et ce qui s'est passé après avec la crise économique et justement tous ces acteurs là, enfin ces amis là, comment ils l'ont vécu et où est passée cette insouciance?
Alors, est-ce qu'on est encore insouciant lorsqu'on a suivi Erasmus il y a quelques mois, Charles, encore de l'insouciance et de l'espoir, ou je parle évidemment d'un espoir européen?
Insouciant et réaliste, effectivement, je pense que le terme d'eurosceptique, de toute façon, recouvre beaucoup de réalités, et qu'à partir du moment où on est eurosceptique, c'est qu'on s'intéresse quand même à la chose européenne et qu'on veut quand même la modifier dans un certain sens. Et bien sûr, réaliste et puis déterminé à se battre pour ce projet, parce que c'est vrai que c'est un projet qui se fait avec des gens, il faut des gens pour se battre pour, et on est là pour ça.
Alors Nicolas Ranès, vous êtes un homme de la terre, donc de la réalité, l'insouciance.
Si, j'en ai encore un petit peu et j'ai surtout beaucoup d'espoir. Personnellement, j'y crois et je pense que c'est des très très beaux projets.
Alors évidemment, quand vous avez appris que les Britanniques envisageaient envisageaient, on n'est plus, étaient en train de quitter l'Union européenne, ce qui était aussi le cas du Pays de Galles, qui a voté majoritairement pour le Brexit, ça vous a surpris?
Pas vraiment, avec les échanges que j'avais pu avoir avec mes collègues de travail, c'est pas un résultat qui m'a beaucoup surpris.
Donc ils étaient...
Ils sont pas pro-européens de base.
Ils étaient gallois, britanniques, avant d'être européens, si toutefois ils étaient un peu...
Si, voilà, on va dire ça comme ça.
Laura Coudrello, alors faire évoluer Erasmus, d'abord vous l'avez expliqué, on est passé d'Erasmus à Erasmus+, c'est-à-dire en gros tout le monde peut participer et bénéficier de ce programme. Sandro Gozzi disait qu'il fallait multiplier les budgets par 10, alors lui il a beaucoup d'espoir, la réalité elle est un petit peu différente.
Non, c'est l'espoir qu'on a et qu'on nourrit pour la prochaine génération de programmes qu'on va commencer à négocier à Bruxelles d'ici le début de l'année 2018. Et comme il l'a bien pointé, c'est quand même le volume et la manne d'argent qui fait qu'on fera partir un plus grand nombre d'étudiants ou d'apprentis ou de lycéens en mobilité. La clé, elle est quand même sur ces bourses et sur le montant de ces bourses. Il faut que le montant reste raisonnable et qu'on puisse démultiplier le nombre de personnes qui pourront partir.
Alors justement, multiplier le nombre de personnes qu'il faut partir, ça passe notamment par des facilités financières. Il y a des gens qui ont très peu de moyens et déjà faire assurer des études à ses enfants, c'est parfois difficile, ça coûte cher et tout le monde n'y arrive pas très très bien. Est-ce que le principe des bourses, qui est quand même le nerf de la guerre, est-ce qu'il a tendance à une augmentation? Vous avez expliqué au début qu'il y avait une bourse Erasmus un peu standard, puis après des bourses accordées par les communes, les régions, les départements, mais là aussi on sait en France en tout cas que les régions et les communes, chacun resserre un peu les budgets, donc est-ce que ça ne met pas en cause quelque part et peut-être le projet Erasmus?
Vous pointez une vraie bataille. Il faut continuer pour attirer un public qui est éloigné de la mobilité, qui naturellement n'a pas envie ou dont la famille est un peu inquiète de voir partir sa progéniture en Erasmus. Pour convaincre, il faut aussi que on puisse bénéficier encore de cette complémentarité des bourses et que chacun contribue. L'argent européen ne suffit pas, il faut qu'il soit agrégé avec d'autres financements et ce combat est un vrai combat qu'il faut conduire à partir d'aujourd'hui, en même temps qu'il faut mettre l'accent à Bruxelles pour continuer. On a obtenu 40% en 2013, fin 2013.
Plus 40%.
Plus 40% par rapport aux programmes existants et il faut continuer dans cette même démarche pour qu'un plus grand nombre de bénéficiaires du programme puissent exister.
Alors justement à Bruxelles, qui regroupe les institutions européennes, le Conseil, la Commission et le Parlement européen, est-ce que sur les bancs du Parlement européen, par exemple, tout le monde est d'accord pour faciliter le programme Erasmus et les échanges Erasmus, ou est-ce que les partis populistes de droite comme de gauche ont tendance à freiner ce programme?
Au Parlement européen, les batailles sont comme ailleurs. Hein. Je veux dire, il faut que ceux qui s'engagent bien et qui sont convaincus du programme le portent.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est que tout le monde n'est pas convaincu des bienfaits
bien
du programme.
Bien sûr, non. Bien sûr.
Un parti comme le Front National, par exemple, au Parlement européen, s'oppose à Erasmus ou...
Je ne sais pas s'il a pris des positions très tranchées. Honnêtement, je ne sais pas.
Alors, l'impact du Brexit, qu'on a évoqué avec Nicolas Ranès, évidemment, les Britanniques s'apprêtaient à partir. Évidemment, le Royaume-Uni, c'est traditionnellement un pays d'accueil. Hein. Alors, qu'est-ce que ça va changer, le Brexit, pour Erasmus?
Une terre d'accueil, ce qu'on sait et ce qu'on a vu, hein, c'est les premières réactions, c'est que les établissements d'enseignement supérieur britanniques se sont montrés très inquiets d'une éventuelle sortie d'un programme comme Erasmus+. Ce qu'on sait par contre, vous avez vu que nous ne sommes pas 28 dans le programme, mais nous sommes 33, donc il y a des accords d'association.
Ça veut dire qu'il y a la Norvège, l'Islande, par exemple, qui ne sont
Norvège,
pas dans l'Union européenne.
Islande, 5 autres pays, donc il y a la possibilité de construire des accords d'association. Et donc vraisemblablement, évidemment, ce qu'on peut imaginer, c'est que même sorti du Royaume-Uni, il pourra y avoir un accord d'association qui permette aux établissements d'enseignement supérieur et autres établissements de formation britanniques de continuer à travailler dans le programme Erasmus+.
Alors, il fut un temps où les garçons, mais pas les filles, devaient accomplir un service national, souvent un service militaire, mais pas uniquement. Alors, l'idée d'un Erasmus obligatoire pour tous les étudiants ou les apprentis au cours de leur cursus, est-ce que c'est une idée qui fait son chemin ou pas? Et est-ce que c'est une bonne idée?
Oui, si vous solutionnez le financement, c'est une excellente idée. Ce qu'on va dire, et ce qu'on voit quand même dans les tendances fortes, c'est l'inscription de la mobilité dans les parcours soit d'apprentissage, soit universitaire. On le voit maintenant dans les lycées professionnels, puisqu'on a la possibilité maintenant d'un crédit spécifique quand on a fait une mobilité au cours de son lycée. Donc là, on voit progresser l'idée de l'inscription dans les cursus. À partir du moment où c'est inscrit dans des cursus, ça veut dire que quelque part, c'est presque obligatoire. Et que là, on va faire partir, évidemment, des gens qui, peut-être, ne s'étaient jamais posé la question de savoir s'ils allaient partir. Alors, et ça, c'est extrêmement important.
Alors, il y a des domaines de l'éducation, on est plus international que d'autres. Je pense, par exemple, aux écoles de commerce, où forcément, enfin, le parcours à l'étranger, un séjour à l'étranger est obligatoire.
Les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs ont inscrit très tôt dans leur démarche l'idée d'aller voir ailleurs comment on pratiquait un certain nombre de métiers ça existe. Mais la grande avancée, la grande nouveauté, c'est que ce sont beaucoup plus les universités et les centres de formation professionnelle qui ont pris le programme et s'en servent pour leur public. Et c'est ça qui est important. C'est ça la nouveauté, c'est-à-dire qu'on va progressivement tous aller vers cet idéal qui était l'école de commerce ou l'école d'ingénieur.
Merci à tous d'avoir été au Carrefour de l'Europe, réalisation Guillaume Munier. Pour écouter cette émission et toutes les autres, rendez-vous sur la page RFI Carrefour de l'Europe ou sur les applis mobiles mais gratuites de RFI. L'aventure continue sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Daniel Lesesquel, que vous soyez en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et tout de suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.